With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Finir l'UTMB me semble déjà un défi extraordinaire. Mais il est encore plus quand on a senti la mort nous envahir quelques années avant, comme mon invité. Allez, c'est parti. Bonjour mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire mon intro habituel. Je vais rentrer dans le vif du sujet, là, tout de suite. Et pour cela, je voudrais d'abord vous raconter l'histoire de cet épisode. Vous avez peut-être participé à des événements, des courses pour Octobre Rose, le Movember, de grands mouvements qui mettent en lumière la lutte contre le cancer. Je voulais vous en parler et j'ai fait quelques recherches. J'ai alors découvert l'association À Chacun Son Everest. Fondée par la première femme à avoir gravi l'Everest, cette association accompagne des enfants, des femmes atteints de cancer et de leucémie. Elle organise avec eux des stages, ce qu'ils appellent les expéditions. Elle leur fait relever un challenge sportif pour révéler en eux des qualités qu'ils ne soupçonnent pas et qui sont celles des champions. Le courage, la volonté, la détermination, l'espoir, l'envie. C'est leur Everest. Toute proportion gardée, être champion du monde de notre monde est aussi notre forme d'Everest à nous. Et j'ai donc trouvé la démarche de cette association remarquable. Je voulais donc parler de cette association et ils m'ont donné le contact de Thierry Chalandre. Et là, j'ai pris une claque. Une belle claque. Il y a quelques mois, Thierry bouclait l'UTMB 2021 à la 288e place. Bon, ça c'est pour les stats, mais c'est pas le plus important. En fait, ce n'était pas son premier. Thierry l'avait déjà bouclé en 2016. Mais dans les mois qui ont suivi ce premier UTMB, Thierry s'est senti mourir, physiquement et mentalement. Il avait 40 ans et il acceptait, car Thierry était atteint d'un cancer depuis des mois, y compris pendant la préparation de son UTMB, mais il ne le savait pas. Avec Thierry, nous avons parlé de son parcours de sportif de haut niveau. En 10 ans, il est monté sur 16 podiums nationaux en aviron, sans avoir pu grimper la marche supplémentaire, et il nous explique pourquoi. Et puis, il explique comment il est arrivé au trail, et surtout, comment il a découvert sa maladie, la lutte contre la maladie, son approche des soins, puis sa guérison, son retour au sport, et son fameux UTMB 2021. Puis vous allez découvrir que Thierry a de nombreux projets, de magnifiques projets. Je suis certain, la philosophie de vie de Thierry va vous bousculer, autant que moi pendant l'enregistrement de cet épisode. Et bien entendu, vous retrouverez dans les notes de l'épisode tous les liens vers les associations dont nous avons parlé, les projets dont nous avons parlé. Allez, c'est parti. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Comment vas-tu ?
Eh ben écoute, ça va bien. Dans cette période un petit peu compliquée, on arrive à faire avancer les choses en étant positif. Et en essayant d'aller de l'avant.
Si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour parler de ton parcours. Et je voulais te demander, comme ça on va placer tout de suite le cadre, qu'est-ce que tu faisais à la fin de l'été cette année dans tes activités sportives ?
Alors, l'année qui vient juste de s'écouler ou l'année
ouais, il y a quelques jours,
il y a 3-4 ans quand on...
Bah, on va commencer par cette année-là. Il y a 3, 3 mois là.
Bah, cette année-là, fin août, en fait, je terminais l'ultra-trail du Mont-Blanc, qui est un ultra-trail qui fait, comme son nom l'indique, le tour du massif du Mont-Blanc, qui fait 175 km et 10 000 mètres de dénivelé positif et négatif. Donc, il s'agit d'une petite course, comme on dit, demandant beaucoup d'efforts, d'endurance et de longueur, qui est en fait ce qu'on appelle le sommet mondial du trail, puisqu'il y a effectivement des athlètes top niveau qui viennent sur cette course-là.
Ouais. C'est un sommet hein, pour beaucoup de gens. Moi-même, par exemple, je me dis, je me sens pas capable de le courir encore. Et pourtant, quand on voit ton parcours, et c'est ce qui est fou, c'est de se dire qu'en fait, c'est encore plus un sommet quand on regarde le parcours, parce que c'est pas ton premier UTMB, en fait.
Non. C'est pas mon premier UTMB. J'en ai couru un il y a 4 ans, fin 2016. Alors si on part dans l'idée de dire c'est pas mon premier sommet entre guillemets, mon premier grand défi. Oui, c'est un petit peu l'histoire de ma vie depuis que je suis gamin. Si je pouvais revenir en arrière, mon premier grand défi comme ça, c'était à l'âge de 15 ans où j'avais décidé avec un copain de partir à vélo de Saumur pour aller à l'île de Ré. Il y a à peu près 220 km. Et on était parti avec des bons vieux vélos VTT de 15 kg. Et voilà.
À 15 ans ?
Donc, ça fait un petit peu partie de ma vie, ce genre de truc.
Ouais. Et à 15 ans, comme ça, tes parents te laissent partir, vous partez à deux comme ça avec des vélos.
Ouais. Oui, je pense que. Alors, on peut toujours comparer les époques. Je pense que c'est. Il y a des plus de difficultés peut-être maintenant, hein, le nombre de voitures, enfin, la fréquence des gens, peut-être, etc. et tout. Mais je pense que j'ai eu une éducation qui justement faisait accéder à cette autonomie, cette capacité à gérer le risque, maîtrise du risque. Voilà, le sport fait partie de ma vie depuis que je suis tout petit. J'ai commencé par un sport études foot, puis après j'ai basculé dans l'aviron, qui a été mon vecteur de vie pendant plus de 15 ans à haut niveau. Et l'exigence, la rigueur, le travail, savoir que l'aviron, on est sur des plans d'eau. Alors moi j'étais sur la Loire, c'est un fleuve vivant. On s'entraîne des fois l'hiver, il fait 0 degré, donc tout risque de tomber dans l'eau peut quand même être vite dramatique. Donc en fait j'ai vite appris ce genre de choses. Enfin voilà, mes parents font du voilier, donc j'ai fait du voilier très jeune en haute mer. Donc cette notion de risque, maîtrise du risque, en fait, on l'apprend progressivement. Et je pense qu'il y avait vraiment aucun souci à faire partir deux ados de 15 ans dans des coins sur un âme. Alors c'est toujours pareil, il y a toujours dans la vie une infime part de risque réel. Le risque est souvent subjectif, on se le met. J'ai peur de, et si se passe ci, et si se passe ça, et si, et si, et si, et si. Et au final, les gens font plus grand-chose. Je trouve que c'est à son paroxysme dans cette société-là actuelle où effectivement les gamins, on préfère les laisser devant des écrans plutôt que de leur dire, bah, écoute, la route est à toi, vas-y, fonce. Alors fonce, pas tout à fait à fond, mais quand même, vas-y, quoi.
Et t'en gardes quoi? Ça s'est passé comment cette aventure avec ton copain là, 15 ans là où... T'en gardes quel souvenir?
Un super souvenir, puisque tu vois, si je remonte on va dire, dans cette notion d'endurance fondamentale, de partir pour un truc où tu dis, OK, je suis le seul acteur de ma vie, je décide si je prends telle route ou telle route, et à quelle vitesse, et comment je gère, en fait, mon corps pour arriver à un objectif. Puisqu'en fait, on en revient là, c'est-à-dire qu'en fait, tu te retrouves avec toi-même, avec ton corps. Et ce corps, il doit t'amener à un endroit. Donc, comment on va le gérer en termes d'énergie, en termes de douleur, de fatigue, de difficulté mentale, de dire j'en peux plus, j'arrête, c'est trop dur, c'est trop ci, c'est trop ça. Donc, c'est cette notion de gérer cette zone de confort, d'inconfort. Et ce que j'en garde, bah, c'est qu'effectivement, tu vois, je pense que c'est précurseur de toute ma vie derrière, et que c'est des bases fondamentales que j'ai construites à 14-15 ans, qui me permettent après, dans ma vie de tous les jours, de réagir correctement à différentes situations qu'on vit en tant qu'adulte. Pour la petite anecdote, de mémoire, ça s'est super bien passé, parce que j'en ai un très bon souvenir. J'ai un souvenir aussi mémorable que sur le retour, on avait voulu passer, couper, je pense, une route et passer par un petit sentier et que j'avais planté la roue avant dans un fossé. Que mon vélo devait pas être assez solide et que j'avais plié la fourche, ce qui fait que quand je tournais, mon pneu frottait au cadre et j'arrivais pas vraiment à tourner. Donc voilà. Mais voilà quoi. Oui, je pense que c'était une expérience fondatrice quoi.
Ouais. Donc après, tu dis que tu as fait de l'aviron à haut niveau. Alors j'avais ça dans mes notes. C'est parce que tu en as fait à très haut niveau. Enfin.
Oui. Alors très haut niveau, en termes d'entraînement, oui. En termes de résultats, on va dire que je me suis arrêté au niveau de l'équipe de France, quoi, à la porte de l'entrée de l'équipe de France, quoi.
D'accord.
Là, malheureusement, dans le haut niveau, une part de qualité naturelle, une part d'entraînement, une part d'aspect mental, et puis une part d'aléatoire ou de chance qui sont liées, on va dire, au contexte qui t'entoure, au hasard de la vie qui fait que ben t'as la mauvaise blessure au mauvais moment, enfin il y a plein de choses. Donc oui, moi j'ai passé on va dire 20 ans dans les 20 meilleurs Français en poids léger, enfin 15 ans dans les 20 meilleurs Français en poids léger. J'ai été 6 fois champion de France, enfin j'ai été sur 16 podiums nationaux, c'est-à-dire en gros un an sur deux. J'ai été sur le, voilà, donc en fait j'ai commencé un peu, pour tout dire, j'ai commencé un sport études foot. Et puis à l'âge de 14 ans, je me suis aperçu que le foot, en termes de dépenses physiques, ne me correspondait plus.
D'accord.
Ce n'était pas assez important.
Ouais.
Oui, il marchait tout. Voilà, et puis du coup, j'ai basculé dans l'aviron. Je me suis dit, là, vraiment, on peut se dépenser. On peut se dépenser. Donc, c'est comme ça que je suis rentré dans l'aviron. Dans l'aviron.
Ouais, et tu dis le cap au-dessus, t'as pas pu le passer. Avec le recul, tu vois comment ça en fait?
En fait, comme je disais, c'est vraiment bon, c'est toute une sociologie du sport hein, qu'il faut appréhender pour comprendre les mécanismes qui font que ça passe ou ça ne passe pas. Les qualités physiques intrinsèques, on peut simplement dire que je ne suis pas un crack, comme il en existe dans certains sports, des gars exceptionnels physiologiquement au-dessus de la norme. Je suis juste un très très bon sportif qui a énormément amélioré ses capacités à l'adolescence. Mentalement, je pense que je suis quand même assez fort. Tout ce qui va être contexte social autour, voilà, mes parents n'étaient absolument pas dans une démarche de soutien du sport de haut niveau, mais plutôt dans une démarche de réussir son scolaire et sa vie professionnelle.
Oui.
Je leur en veux absolument pas, hein, mais c'est un fait. Voilà, quand on a des parents, toute une famille qui est regroupée autour d'un jeune athlète, on s'aperçoit qu'on franchit des marches. Et puis après, il faut avoir le soutien, on va dire, fédéral. Du contexte sportif en lui-même. Et là, ça passe par ton club, ta fédé, etc. et tout. Et si ton club n'est pas forcément dans les clous, si ton entraîneur, c'est toute une question là on va dire, de politique du sport. Et des fois, bah, on prend un autre plutôt qu'un autre. Alors, j'ai loupé une première fois l'entrée dans les pôles France, ce qu'on appelle les pôles France et les pôles espoir à Nantes. Quand j'étais junior, pour des raisons justement scolaires, parentales. Puis après, quand j'y suis arrivé à la fac, puisque j'ai commencé un STAPS en parallèle, je suis arrivé à la fac à Nantes sur le pôle France. Et là, on va dire qu'à un mois des sélections nationales, j'ai eu la malchance de me faire une triple fracture de la cheville en réception de salto avant en STAPS. Voilà,
Ah.
le truc tout bête. Le truc tout bête à la dernière minute de la séance où tu dis, allez, c'est le dernier que je fais, et c'était sûrement celui de trop qui m'a bloqué. Ça, c'est un des plus gros regrets de ma carrière, c'est qu'en fait, le mental a été tellement fort avec moi que j'ai voulu ne pas m'arrêter, j'ai voulu m'entraîner, j'ai voulu reprendre 3 semaines après, tout simplement pour me présenter sur la ligne de départ. Et puis, j'ai fait ce qu'on appelle une complication, une algodystrophie.
D'accord.
Les algodystrophies étant une espèce de maladie psychophysique qui vient se greffer sur une douleur, qui entraîne des douleurs, des gonflements de cheville, enfin plein d'effets négatifs. Ça peut durer entre 3 mois et 3 ans ou 4 ans. C'est très très long à soigner. Surtout à mon époque, à moi, on connaissait très peu ce truc-là. Maintenant, c'est mieux soigné. Mais ça m'a mis pendant 1 an et demi un peu dans la difficulté. Alors le point positif, c'est que j'ai passé mon CAPES de PS et que au moins j'ai sauvé mon avenir professionnel en étant prof de PS. Voilà. Donc j'ai eu un arrêt en fait, on va dire un petit peu pendant 1 an et demi à 22, 20, entre 21 et 22, 23 pour gérer ce problème-là. Et puis après, bah voilà, j'ai repris le sport de haut niveau, mais on perd le rythme. On a beau s'entraîner, mais il faut bosser déjà parce que c'est pas un sport professionnel. Donc moi, il faut savoir quand même qu'à 24 ans, bah, j'étais prof de PS et puis je m'entraînais 2 fois par jour, quoi. Donc je m'entraînais le matin, j'allais au boulot, je m'entraînais le soir. Mais comme beaucoup de sportifs de sport non professionnel. Donc voilà. Donc après, ma carrière est restée dans un truc raisonnable entre le 12e et le 20e français en poids léger. Et puis bah, c'est là que j'ai pu faire des podiums nationaux en club et ce genre de choses.
Cette histoire de carrière après, enfin, l'aviron finalement, tu t'es arrêté à quel moment ou t'en fais peut-être encore, j'en sais rien finalement.
30 ans. 30 ans, 30 ans, c'était la fin de ma carrière d'aviron. Alors, pour plusieurs raisons. Hein. Un, parce que c'est un temps passé énorme. Tu consacres ta vie à ça. Jusqu'à 30 ans, ma vie a tourné quand même essentiellement autour de l'aviron. Bah, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Pour être à un certain niveau, il faut s'entraîner. C'est tout bête, mais il faut y passer du temps. Et puis, bah, après, bah, c'est simplement. Faut savoir que j'étais sur Paris. Que je commençais à plus supporter la vie à Paris.
Je te comprends.
Voilà, parce que j'ai été muté, donc forcément professionnellement à Paris. Donc il a fallu que je voulais repartir en campagne, enfin on va dire dans la nature. Donc voilà, le fait de bouger, je suis arrivé Je suis arrivé sur la Bretagne. Je suis arrivé. Il a fallu. Enfin, j'ai rechangé de cadre familial. Donc, l'arrêt de la carrière s'est fait comme ça, en fait. Et puis, je voulais reconstruire une maison, enfin, rénover une maison, d'autres projets pour passer à autre chose. Mais l'arrêt de la carrière est très, très dur. C'est vraiment une phase très compliquée. Quand on a baigné dedans pendant autant de temps, il y a vraiment une phase de dépression sur beaucoup de points qui sont compliqués à vivre.
Alors, comment tu t'en viens finalement ensuite sur l'endurance, sur le trail, sur l'ultra?
Parce que, alors déjà, bon, j'avais ce parcours de vie où j'ai toujours aimé ce type de défi, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, dès 15 ans, j'avais déjà ce type d'expérience de faire des trucs longs, que l'aviron, de toute façon, prépare à ça. L'aviron, c'est un sport qui prépare, on a des doses, c'est un peu comme un cycliste, hein. Un cycliste, il fait ses 150-200 bornes quotidiens. Donc, quelque part, après, s'il veut basculer dans autre chose, il a déjà ses compétences physiologiques d'entraînement là-dessus. Donc, cette endurance foncière, je l'ai. J'y suis basculé parce que juste à l'arène de ma carrière, j'ai fait des petites expériences sympas avec des copains qui étaient… Il y a une course pareille d'ultra trail, mais en aviron. Enfin, d'ultra, mais en aviron, qui s'appelle le Tour du lac Léman.
D'accord.
On part à 5 sur un bateau et on fait le Tour du lac Léman. Donc, c'est pareil, c'est 180 km. Ça dure entre 11h et 20h de course.
Ouais.
Donc, c'est peut-être ce déclic-là qui m'a fait rebasculer dans l'idée de faire des trucs en endurance. Mais entre les deux, après, j'ai plutôt… Puisque j'ai eu une phase en fait où bon voilà il a fallu rénover une baraque et donc j'ai un peu baissé de pied en termes d'entraînement et j'ai juste couru quelques marathons pour m'entretenir on va dire jusqu'à 34 ans
ouais.
Et à 34 ans là je me suis remis le pied à l'étrier pour me rentraîner un petit peu refaire des trails et puis progressivement bah jusqu'à l'arrêt quand j'ai senti que ma santé déclinait là j'ai eu un souci qui a fait que j'ai re-eu une coupure, en fait. Ma vie de sportif de haut niveau a été faite de coupures. À chaque fois de se relancer, de repartir et tout.
On n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que ton premier UTMB, finalement, c'est 2016, c'est ça?
Oui, fin 2016.
Et en 2017, on te diagnostique un cancer, en fait.
Ouais. En fait, comment ça s'est passé? Ça s'est passé que je suis arrivé sur l'UTMB 2016, on va dire. Cet UTMB 2016, il est assez paradoxal parce qu'en fait, toute l'année 2016, c'est-à-dire la partie hivernale de l'hiver, j'étais déjà assez malade. Ma santé déclinait vraiment profondément sur différents facteurs. Et puis, arrivé à l'été, comme je suis enseignant de PS, j'ai eu mes 2 mois d'été, juillet, août, qui fait que forcément le système immunitaire reprend un petit peu, je pense, de force.
Ouais.
Le repos, le fait de pas être au boulot, le fait d'être en montagne, au grand air, fait que bah, finalement, je me suis ressenti mieux. Et puis, j'ai terminé cette UTMB 2016. Je pense sur mes qualités intrinsèques, sur mon mental, sur cette idée de découvrir des choses nouvelles. Et voilà. Et après, malheureusement, ça a été le grand plongeon après cette UTMB 2016, c'est-à-dire que derrière la partie de septembre, octobre, novembre a été très difficile en récupération et puis j'ai plongé totalement dans l'hiver 2017. Je courais même plus. Là, ça devenait vraiment très compliqué en termes de santé. Mais le problème, c'est que n'étant pas très en alerte médicale en permanence, en me disant que tout va bien, etc. et tout, je me suis mis à vivre dans le déni, en fait. À m'inventer des excuses en me disant que non, c'était passager, qu'il y avait d'autres choses, que c'était à cause de ci, que c'était à cause de ça, et puis que c'était pas grave. Mais j'ai vu quand même quelques médecins parce que par moment j'étais quand même un peu vraiment, enfin quand je dis dans le dur, c'est que c'est vraiment que je suis dans le dur. Et à chaque fois, les médecins me disaient que non, il se passait rien. J'étais sûrement fatigué par mon train de vie, par le fait que j'étais hyperactif, que j'étais toujours en mouvement, mais ils voyaient pas grand chose. Donc ça a conforté en fait cette idée de déni ou de me dire c'est ça vieillir en fait. Hein. Je suis arrivé à une réflexion qui était de se dire que fallait l'accepter en fait. Je vieillissais quoi. J'étais passé, j'arrivais à la quarantaine donc c'était ça la quarantaine quoi.
Ouais.
Puis être capable de faire 2 entraînements par semaine, pas être capable de mal dormir la nuit, avoir des douleurs articulaires partout, avoir des problèmes de peau, avoir des tas de choses qui t'arrivaient. Tu te disais, bon, bah voilà, c'est ça vieillir. Bon, bah. Et c'est là que j'ai vécu un truc assez intéressant, c'est que, en fait, dans ce printemps 2017, j'en étais même au point où le cerveau te préparait à mourir. Et ça, c'est un truc assez intéressant à vivre et qui alimente une réflexion que j'avais, c'était de me dire qu'en fait, la nature était assez bien faite quelque part. Parce qu'on se pose toujours la question, comment les personnes âgées ou les animaux qui sont âgés ont l'air d'accepter ce sentiment de mourir assez facilement, le terme est peut-être dur à dire, mais on va dire avec cette notion qu'il est normal d'arriver à une fin. Ouais. En fait, j'ai eu cette sensation-là, effectivement, à 40 ans. Ouais, c'est-à-dire que j'ai eu ce sentiment que mentalement, mon cerveau me disait, c'est normal, et puis t'as super bien vécu, t'as fait plein de choses, t'as rien à regretter, si ça doit s'arrêter là, ça doit s'arrêter là. Et j'avais beaucoup de ces réflexions-là quand j'étais sur un footing de 10 km et que je crachais mes poumons, que j'avais des quintes de toux, que j'arrivais plus à avancer. Je me disais, bon, bah, c'est comme ça.
À 40 ans, c'est jeune.
Ouais, c'est bizarre. Ouais. C'est bizarre, là, mais c'est là que je me dis que le cerveau, alors je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont vécu un cancer comme ça avant ou. Parce que j'en avais pas conscience, que je savais pas que j'avais pas un cancer. Les médecins que je voyais, puisque j'ai vu un médecin en juin, j'ai quand même, en fait, j'avais à la moindre poussière, à la moindre pollen extérieur. Donc, alors que je n'étais absolument pas asthmatique, que je n'avais jamais eu d'allergie de ma vie, à la moindre poussière, à la moindre pollen extérieur, je toussais, j'avais des quintes de toux énormes. Et donc j'avais fait une radio des poumons en juin. Et le gars m'avait dit, écoute, y a rien, pas de souci. Donc on se retrouve avec notre malheur, notre niveau. Enfin, c'est une période quand même très dure. Hein. Je dormais plus la nuit, toutes les nuits à partir de 2-3 heures du mat, j'étais réveillé par des douleurs de hanche. J'avais une épaule gauche complètement bloquée. En fait, mon côté gauche du corps était en train de mourir.
D'accord.
Clairement, c'est-à-dire que l'articulation gauche, je pouvais plus me mettre la main dans le dos, elle était complètement bloquée. Ma hanche gauche me faisait souffrir énormément. Et voilà, donc au final, on finit par l'accepter. Et puis, l'été s'est passé comme ça. Et puis, à la fin de l'été, en fait, j'avais une boule dans le cou, une grosse boule alors qu'on pouvait toucher avec le pouce. Donc, tout le monde sait que les ganglions commencent à devenir gros. Et là, ça a quand même fini par alerter quelques médecins. Et heureusement, il y a quand même un médecin parce que, les premiers médecins que j'ai vus m'ont encore dit, bon, non, c'est juste, vous avez une petite inflammation ou un petit virus passager ou un petit truc comme ça. Hein. Et puis, il y a quand même un médecin qui a dit, on va aller chercher un petit peu plus loin et tout. Et là, en refaisant une radio, j'ai été refaire une radio. Parce que sur les analyses sanguines, en fait, ce qui se passait, c'est que sur les analyses sanguines, on ne voyait rien. Il n'y avait pas de marqueur.
D'accord.
Qui pouvait dénoter ça. Et c'est, je pense, peut-être pour excuser les 5 médecins que j'ai vus quand même dans cette année 2007, différents, hein, 5 médecins différents, pour les excuser, c'est qu'effectivement, dans leur recherche de marqueurs, sur le plan sanguin, il n'y avait rien. Sur la radio que j'avais eue en juin, il faut s'avérer quand même que celle de la radio de juin et la radio que j'ai faite donc en fin août, elles étaient identiques. Et là, le médecin n'a pas décelé qu'il y avait effectivement un lymphome qui était en train de se développer au niveau du thorax. Donc, j'ai perdu 2 mois. Je sais pas ce que ça engendre dessus. Mais fin août, effectivement, donc, il y a un médecin qui s'est dit, bon, on va pousser, voir un petit peu plus loin. Et là, le gars, quand il a vu mes trucs, il a dit, vous passez directement en scanner dans les 2 heures. On vérifie. Et voilà, il s'avérait que j'avais donc c'est là que il s'avérait que j'avais donc ce qu'on appelle un lymphome de Hodgkin, qui est un cancer du système immunitaire. Donc moi, le lymphome de Hodgkin, quand il a été vu en août 2017, enfin les résultats sont arrivés en septembre 2017. Donc ce qu'on appelle lymphome de Hodgkin avec bulky médiastinal, ça veut dire une énorme boule au niveau du thorax, qui était quand même de 15 sur 7 centimètres, donc ça faisait quand même un gros pamplemousse au niveau du thorax. Et puis donc un chapelet de ganglions qui remontait jusqu'au cou. Donc on appelle ça de niveau 2, puisqu'elle atteint 2 stades, le cou, le thorax, et elle descend pas en dessous du diaphragme. Donc là, quand on passe en dessous du diaphragme, c'est niveau 3. Et il faut savoir qu'il y a 4 stades. Il y a 4 stades. Donc moi, j'étais en fin de stade 2. C'était resté sur 2 niveaux, mais avec un bulky médiastinal de haut grade, donc énorme. Donc en fait, c'est quasiment un niveau 3, quoi. C'est-à-dire que et ça a été ensuite traité comme un niveau 3 en termes de produits chimio et de charge de chimiothérapie, quoi.
Qu'est-ce que tu ressens au moment où on découvre enfin ce que t'as, quoi? Parce que finalement, ça fait des mois que tu souffres.
Ouais, en fait, ça a choqué beaucoup de monde quand je dis ça, mais pour moi, c'était un soulagement, en fait. C'était un soulagement que enfin quelqu'un mette un nom sur ce que je ressentais depuis un an et demi. C'est-à-dire qu'un an et demi, je me sentais mourir. Je sentais clairement que je n'allais plus bien. Je connaissais ma valeur entre guillemets sportive en termes de santé, en termes d'énergie, et je me sentais mourir. Et autour de moi, en fait, personne s'alarmait. Donc, j'arrivais à vivre dans le déni, tout en me disant qu'il y avait un gros problème. Et enfin, quand on me l'a annoncé, on m'a dit, ben voilà, vous avez ça. Là, je fais, waouh, ouf, ok. Maintenant, on le sait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait et tout? Ça a pas été. Je n'ai pas eu ce gouffre. On t'annonce le truc et que tu dis waouh, là je suis en train de tomber dans un gouffre sans fin et ma vie est terminée. Non. Parce qu'en fait, la partie la plus dure, en fait, a été la partie précédant l'annonce de ce cancer. Où là, vraiment, toute ma vie commençait à rentrer dans une déni, une dépression sportive. J'en étais au point où je voulais plus avec des potes, en fait. Je voulais plus avec des copains parce que quand eux, ils faisaient un petit footing de récup, moi, j'avais l'impression de faire mon marathon du week-end, quoi. Ouais. Et voilà. Et donc, ça a été un soulagement. On mettait un nom. Alors après, tout de suite, j'ai basculé dans l'idée, OK, qu'est-ce que c'est? Comment ça se traite? Comment ça dure? Quelles sont les chances de réussite de vaincre ce nouveau défi, en fait?
Comment ça se passe derrière? Parce que j'imagine que vu le stade où c'en était, il fallait traiter extrêmement vite.
Ouais, en fait, c'était très très vite. Faut savoir quand même que en septembre, donc j'ai repris le boulot après l'ultra. Donc en fin août, donc j'ai eu mes premiers trucs médicaux, mes analyses où j'avais effectivement ce ganglion au niveau du cou qui était énorme et. J'ai repris le boulot en septembre, prof de PS, normal. Et puis, j'en étais au point où, en fait, quand je rentrais du travail, j'avais des malaises sur la route. Et quand je rentrais à la maison, je me couchais, quoi. Et ça a duré 2 semaines, 3 semaines. Et je me suis dit, là, ça va pas du tout, quoi. Et à ce moment-là, donc, c'est là que j'ai revu, parce que le premier médecin en août, il m'a dit, ça doit être, juste un problème de virus, enfin d'inflammation, etc. et tout. On regarde pendant 2 semaines ce qui se passe et puis il y a ça. Puis au bout de 2 semaines, j'ai fait non, là ça a vraiment plus, quoi. Donc là, deuxième analyse, et là dans les 3 jours au scanner, au bout du scanner, ils disent en fait ça sent. C'est là qu'en France on s'aperçoit qu'on a un système de santé quand même très intéressant. Moi, je découvrais un petit peu ça parce que c'était un monde qui m'était un peu inconnu. Et je me suis aperçu à quel point, à partir du moment où tu es dans un état grave, on te prend en charge à une vitesse remarquable. Et tout s'enchaîne très, très vite. Donc, en fait, 15 septembre, on m'a dit la semaine prochaine, c'est ci, la semaine prochaine, c'est ça. Et puis, j'ai été commencé à être traité, on va dire, le 15 octobre. Donc, ça a pris un mois. Alors, tu vas me dire, vu où j'en étais, la personne qui est chargée de me suivre sur cette chimiothérapie me disait que de toute façon fin décembre j'étais 3 mois après, comme c'est un cancer actif quand même, et vu le stade où j'en étais, 3 mois après j'étais en phase terminale, donc il fallait quand même aller vite effectivement. Et donc effectivement dès octobre j'ai subi mes premières séances de chimiothérapie qui ont donc je le disais tout à l'heure, ils m'ont traité un petit peu avec un énorme protocole renforcé, un peu comme si j'étais en stade 3 déjà. sur il y a eu de j'ai eu je crois deux mois de protocole renforcé, et si au bout de 2 mois le lymphome avait disparu, après il continue avec un protocole un petit peu moins important. Enfin, quand je dis important, c'est en termes de molécules, en termes d'effets soi-disant toxiques ou d'effets secondaires annoncés, et pendant 6 mois. Donc voilà, la durée de la chimio, pour moi, a duré 6 mois.
Ça a duré 6 mois, et à ce moment-là, tu penses que tu as retrouvé ton activité, ta vie d'avant, enfin, qu'est-ce que tu penses à ce moment-là?
Non, on n'a jamais retrouvé la vie d'avant. Mmh. Et ça, c'est un truc qu'il faut... L'idée, c'est si on commence à pleurer sur la vie qu'on a perdue, on va se perdre. Il faut plutôt sourire à la vie porte ou à la vie qui va s'ouvrir dans le futur. Ça, c'est une chose importante. C'est-à-dire que moi, je l'ai dit, quand on m'a annoncé ça, j'ai dit « Ok, c'est une nouvelle expérience qui s'ouvre devant moi. » Donc, effectivement, le boulot s'arrête. Ta vie va être tournée autour de ta chimiothérapie. Mmh. Et dans cette chimiothérapie, il faut la voir comme une expérience, un moyen de se renouveler, un moyen de réinventer sa vie, de reconstruire sa vie. Et toute cette phase de chimiothérapie pendant 6 mois, qui est dure, il faut mettre en place des mécanismes qui vont te permettre de commencer à réinventer une vie. Donc, une vie au quotidien, avec effectivement des choses qui te plaisent. Parce que si c'est pour t'enterrer dans ta dépression, dans ta douleur, dans ta souffrance, et tourner entre 4 murs, effectivement, mentalement, tu vas pas aller bien. Donc, en fait, il faut savoir se dire, ce que je faisais là 2 semaines avant, c'est terminé, mais par contre, je vais faire d'autres choses super bien. Ça fait 5 ans que je dis, je voudrais faire de la musique, ou je voudrais faire du dessin, ou je voudrais lire ces livres, je voudrais classer, je sais pas moi, mes photos, je voudrais faire ci. On a, je pense, quand on y réfléchit bien, des milliers de choses qu'on aimerait faire et qu'on n'a pas fait. Ces choses-là peuvent être faites à ce moment-là, où effectivement, on va se replier sur soi-même, mais se replier sur soi-même, pas dans le sens négatif du terme, dans le sens où on va redécouvrir son corps, en fait. On va redécouvrir qui on est, quelles sont les choses importantes pour soi. Et c'est un moment où, effectivement, on va pouvoir faire un... On dit toujours qu'on a plus ou moins, même sans une maladie, les crises de la quarantaine, de la cinquantaine, enfin, voilà, des moments où peut-être faut repenser à soi et quels sont ce qui donne du sens à notre vie et qui est important. Ce moment-là, en fait, nous oblige à le faire, mais nous donne aussi ce temps-là pour apprécier chaque instant. Puisque bien sûr, c'est rythmé par tout ce qui est médical. Toute notre vie va être rythmée par le médical, les chimios, les soins infirmiers, les piqûres à faire, les médocs à prendre, etc., etc., etc. Mais entre les deux, on peut reprendre du temps pour soi et se recentrer sur ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant. Et ça, en fait, ça va peut-être permettre de préparer l'après-chimio. Moi, j'ai eu l'impression que pendant la chimio, on est dans un système où on est cocooné. Cocooné dans le sens, on a une chance extraordinaire quand même. En France, il faut s'en rendre compte, on fait partie des 5% de privilégiés dans le monde, où les soins sont une chance pour moi et non un dû. C'était une des premières choses que je me suis dit en rentrant dans un hôpital. J'ai dit, la première chose, c'est ne te plains pas auprès des soignants, ne les emmerde pas, parce qu'ils font un boulot extraordinaire, ils vont prendre soin de toi. Ils peuvent pas tout donner, ils peuvent pas être les meilleurs, ils peuvent pas être si, mais oublie pas que tu fais partie des 5% de privilégiés dans le monde. Qu'avec ce que tu as dans n'importe quel autre pays du monde, ton espérance de vie, c'est 1 mois ou 2 mois. Donc ça, c'est une chance. On va te donner une deuxième vie. On va te donner une deuxième vie. Il faut bien en avoir conscience. On va te donner une deuxième vie. Il va falloir aller la chercher. Il va falloir se battre. Il va falloir réussir à passer cette montagne. Et c'est en ça que donc tout mon travail sportif avant, et donc là c'est la passerelle que j'ai fait avec l'Ultra Trail et avec aussi cette association À Chacun Son Everest, qui est de dire que on a un sommet à vaincre, on a une distance à vaincre, puisqu'on t'annonce une chose, on te dit tu vas en avoir 6 mois de chimio. Donc, c'est un chemin à parcourir. Et ce chemin à parcourir, on peut voir de deux manières. J'avance, et plus j'avance, plus j'arrive vers ma destination. Donc, chaque petit pas, quel qu'il soit, petit pas, grand pas, moyen pas, en fonction de ça va être mal, il y a des moments où on est dans le doute, des moments où c'est dur, des moments où ça va mieux, etc. et tout. Chaque petit pas te rapproche de l'arrivée. Donc là, on fait un décompte des choses. Enfin, on avance vers notre objectif. Mmh. Et puis, il y a une autre manière de le voir dans l'autre sens. Comme par exemple, un sportif qui est blessé, il a une entorse, puis on lui dit, OK, t'as 3 semaines. Et dans 3 semaines, tu vas pouvoir reprendre la compète, reprendre ci, reprendre ça. Et effectivement, donc on peut voir ça aussi dans le sens inverse, c'est-à-dire que j'ai mes 6 mois de chimio et derrière, je vais mettre en place, préparer cette vie d'après. Donc, un mois après, je ne sais pas, je vais aller en vacances. Après, je vais partir en vacances. Je pense que c'est totalement une aberration de laisser tomber tous ces projets d'après cancer. Mmh. C'est ça qui nous permet de vivre, de nous donner un cap, un objectif sur l'après-cancer. Sinon, on est uniquement centré sur la chimio, le cancer. Il faut surtout pas mettre une croix sur tous les projets qu'on voulait faire après. Il faut au contraire en faire plein. Et moi, j'ai envie de dire, quand j'ai eu ce cancer-là, j'avais déjà prévu l'après-cancer. Mmh. Tout était cadré. Et même, faut pas avoir peur de s'investir financièrement. J'avais prévu, moi, un mois après, de partir en voilier avec des copains faire une croisière. Donc voilà, j'avais payé, je sais plus, 300 euros, 400 euros de préparation de bateau. Mais j'ai envie de dire, soit on est mort et les 400 euros, on s'en foutra, mmh. soit on a avancé les 400 euros et quand on est guéri, mais c'est un rayon de soleil, enfin c'est extraordinaire de se dire, bah ok, j'avais prévu ça et maintenant je peux le faire. Je suis libéré, j'y vais et j'en profite. Donc, moi, j'ai travaillé sur ces deux aspects-là. Qu'est-ce que je mets en place après? Et ce que je vis en ce moment est un chemin dans lequel je gravis une montagne. Et puis, plus je passe le sommet, plus j'arrive vers la ligne d'arrivée.
Combien de temps après, tu reprends le sport? Parce que moi, quand je regarde ton programme de 2018, je me dis, t'as repris vite derrière.
Ouais, oui, j'ai repris vite. L'idée, en fait, c'était de me dire, j'arrête pas.
Ouais.
Même pendant la chimio. J'avais conclu un pacte avec le système médical. C'est-à-dire, je leur avais dit, vous vous occupez du médical, je m'occupe de mon corps et de mon esprit. Mmh. C'est-à-dire quand il y a beaucoup de gens qui veulent tout savoir sur les produits qu'on va leur mettre, sur comment ça se passe, quels sont les tiennages. J'aurais dit, moi, je me suis un petit peu mis dans la position du sportif qui s'occupe de lui, qui est très égoïste, et puis son coach qui gère tout le truc autour, quoi. Mmh. Qui gère l'approvisionnement, les maillots, la stratégie, le truc. Et j'avais fait cette distinction-là. Elle n'est pas forcément bonne, hein, c'est ce que... Il y a différentes manières de voir les choses, mais j'avais décidé de faire ça. Et je m'étais dit, il faut s'occuper du corps pour que l'esprit ait envie d'y rester. Quand on s'occupe de son corps, ouais. Le mental a envie de rester dans le corps. Mmh. Et s'occuper de son corps, moi, pendant la chimio, donc je m'obligeais déjà à aller marcher. Donc, j'ai essayé de trottiner un petit peu. Donc, en fait, c'était un petit peu, on s'aperçoit qu'effectivement, on va plonger progressivement dans la chimiothérapie. Au début, quand on m'a mis les produits, j'ai eu un effet immédiat qui a été très bon. C'est-à-dire, dans le premier mois, j'ai plutôt eu l'impression de retrouver de l'énergie. Mm. De retrouver énormément d'énergie. Donc, j'allais trottiner. J'allais beaucoup marcher. Puis, j'ai commencé à faire du stretching yoga. C'est-à-dire que même quand j'étais à l'hôpital, je me consacrais 30 minutes par jour où je faisais un peu de yoga, stretching, des petits exercices d'équilibre, des petites choses. Par exemple, je vais dire ça pour un coureur à pied. Un coureur à pied a souvent tendance à privilégier la partie entraînement physiologique. Faut faire ses séances, faut faire ses séances là. Et puis à courir comme il peut, à peu s'occuper de sa technique. Mmh. Et le fait d'être enfermé à l'hôpital te donne le temps peut-être de retravailler un travail de pied, de sensation, de remuscler ta plante de pied avec des exercices d'équilibre, avec des exercices de maintien. Des petites choses, en fait, que t'as pas le temps de faire au quotidien. Mmh. Ben moi, en fait, je m'étais mis ça. C'est-à-dire que c'était ma petite routine. Je faisais des petits exercices à l'hôpital qui me duraient 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, qui coupaient ma journée entre les soins, entre les moments de fatigue, entre les moments où tu fais autre chose. Et donc, j'avais cette activité que j'ai maintenue. Alors, il y a quand même un moment où on descend très, très bas hein, dans cette activité. Mais je n'ai pas le souvenir d'avoir eu des journées complètement off. Bien sûr, j'en ai eu deux ou trois. Hein. Je me vois encore à des journées scotché sur un canapé, à ne plus pouvoir bouger tellement j'étais mal. Mais je pense qu'il n'y en a pas eu deux ou trois ou quatre sur six mois. Toutes les autres, j'ai quand même réussi à toujours cette idée de sortir sa zone de confort. Ça a toujours été une chose que j'ai eu à l'esprit, c'est de dire, OK, quel est ton petit défi quotidien? C'est des défis qui peuvent paraître dérisoires pour d'autres personnes. Hein. Oui. Faut bien se dire ça. Hein. Des fois, c'est des défis qui paraissent dérisoires pour d'autres personnes. Mais le fait de les faire pendant qu'on est en chimio fait qu'on s'occupe de son corps, que le mental va mieux, parce qu'au final, à la fin de la journée, on dit, mais j'ai quand même fait ça. Et donc après, pour revenir à ta question, oui, bien sûr qu'en fait, ma première idée, c'était de me dire, alors pour remettre les choses dans l'ordre, comme mon cerveau a beaucoup fourmillé à l'hôpital, c'est là que j'ai découvert cette association à chacun son Everest, en pianotant un petit peu sur les réseaux, en regardant un peu des trucs, je me suis aperçu qu'il y avait l'UTMB que j'avais couru en 2016, et puis je me suis dit, après, tu le referas. Donc, je me suis dit, tu vas le refaire. Et en me disant, je vais refaire cette UTMB, je regardais, puis je me suis aperçu que il y avait cette association à chacun son Everest qui était partenaire de et qu'on pouvait courir avec un dossard solidaire, cet ultra trail du Mont Blanc. Alors, en me renseignant un peu, j'ai vu association à chacun son Everest, une association pour les enfants, pour les reconstruire après des cancers, dans leur phase de rémission, pour les aider à se reconstruire. Et puis, j'ai vu, fondée par Christine Janin, première française à avoir vaincu l'Everest dans les années 80, avoir fait les 7 plus hauts sommets. Puis en fait, je me suis dit, mais ça correspond tout à fait à ce que tu penses, c'est-à-dire cette notion de chemin à parcourir pendant ta chimio. Et puis c'est exactement ça en fait, c'est l'image qu'ils en donnent aussi. Mais cette association est faite. Moi, je travaille avec les enfants. J'adore ce côté le sport, le corps, les enfants. Donc je me suis dit c'est ça. C'est cette association-là est faite pour moi. Donc pendant la chimio, je me suis dit ok, tu vas courir l'UTMB avec un dossard solidaire pour cette association. Bingo. Je regarde sur Internet, il y avait une association satellite qui s'appelle la Cordée Bretonne à Rennes, qui donc une association satellite de À Chacun Son Everest qui est à Chamonix. Et je les ai contactés. Et voilà. Donc en fait, quand je suis sorti de la chimio en avril, il faut savoir que j'avais prévu de partir au ski avec mes élèves parce que j'étais initiateur d'un projet ski avec mes élèves une semaine après la fin de la chimio. Toi, c'était mon premier projet que je m'étais fixé.
D'accord.
Je sors la chimio, une semaine après, je suis au boulot avec les élèves faire mon séjour ski. Bon, alors, c'est le seul truc que je n'ai pas réalisé. C'est qu'effectivement, la médecine du travail m'a pas donné le feu vert pour y aller. Mais c'est le seul truc que je n'ai pas réalisé dans les projets que j'avais prévus. J'avais prévu un séjour ski une semaine après, trois semaines après, une croisière en voilier. Et puis après, à la fin de l'été donc qui suivait, de faire un premier trail de 78 km là dans le sud de la France pour voir où j'en étais. Donc tout de suite, je me suis remis le pied à l'étrier à commencer à courir. Il faut savoir que quand on sort de la chimio, on est dans un état lamentable en termes de physique. C'est bizarre, c'est très paradoxal d'ailleurs, c'est que on vous annonce que vous êtes guéri. Et vous sortez dans un état de physique lamentable en vous disant « mais je ressemble plus à rien, je ne peux plus faire un kilomètre en courant, mais on me dit que je suis guéri, que tout va bien ». Et je dois le dire, la partie la plus difficile, c'est la partie après cancer. Parce que d'un coup, le monde médical qui vous entourait, qui avait créé votre routine pendant 6 mois, s'arrête. Et vous passez de... bien sûr, vous êtes le malade et vous êtes le centre de toutes les attentions au niveau médical. Ah, vous êtes guéri, monsieur. Au revoir. On se revoit dans 3 mois, 6 mois, etc. et tout. Mais voilà. Et du jour au lendemain, paf, tout s'arrête. Et donc là, on est un petit peu, effectivement, vient le temps où on se retrouve seul avec son corps, où il faut le reconstruire. Et cette phase est très, très dure mentalement. Parce qu'en fait, faut pas se leurrer, la chimio, elle est encore très, très longue à éliminer. Hein. Pendant de longs mois, il faut savoir quand même qu'on vous a mis des produits plus toxiques que ce que vous aviez comme maladie dans le corps, qui voulaient vous tuer. Donc, c'est pas des plantes anodines qu'on vous met à l'intérieur. Donc, tout ça, il faut l'évacuer pendant des mois. Dans cette phase, on a des phases d'euphorie où effectivement, on se dit, OK, ça y est, on a, entre guillemets, même si on est dans cette phase de rémission, hein, qui va durer plus ou moins longtemps, entre 3, 4, 5 ans, 6 ans, où on a une épée de Damoclès en se disant, est-ce que ça repart ou est-ce que ça repart pas? On est quand même dans une phase où on se dit, OK, j'ai déjà rempli mon premier pic, quoi. C'est-à-dire, j'ai vaincu mon cancer, ça a duré 6 mois, je suis sorti d'une épreuve, quoi. Donc, on a cette phase d'euphorie où des fois, on se lance des défis peut-être un petit peu au-delà de ce qu'on devrait faire. Et du coup, c'était l'anecdote que je contais, c'est-à-dire que 3 semaines après, là, juste avant de partir en croisière, j'avais été donc voir cette association À Chacun Son Everest à Chamonix pour les rencontrer. Et je m'étais dit, puisqu'on est là en montagne, allons-y, on va aller monter à la station de ski La Fléchère, là, qui est au-dessus de Chamonix. Et donc, il y a 800, 900 mètres de dénivelé, quoi. Et donc, j'étais parti 3 semaines après à me dire, on va faire ça. Donc, dans la journée, c'est passé. J'étais tellement heureux d'être arrivé là-haut. Alors, on est redescendu quand même en télésiège, mais j'étais monté là-haut. Sauf que 3 jours après, j'ai payé la note, quoi. C'est-à-dire que 3 jours après, on est complètement crevé. Donc, en fait, dans cette phase-là, on a un petit peu pendant 3-4 mois, il faut avoir la sagesse de se dire que je vais reprendre tout doucement, tranquillement, parce que c'est un long combat où on va encore avoir des douleurs, alors des douleurs fantômes ou des douleurs réelles liées à la réorganisation du corps. Il faut quand même savoir que moi, par exemple, au niveau du thorax, il y avait un bulky de 15 cm sur 8 cm. Donc, une fois qu'il a disparu, ça refait un trou, dans le corps. Et en fait, quand je disais tout à l'heure que avant le cancer, j'avais tout mon côté gauche de bloqué, c'est-à-dire épaule bloquée, hanche bloquée, etc. et tout, et ben ça, c'est une chose qui était flagrante. C'est-à-dire qu'à partir de au bout de 3 mois de chimio, du jour au lendemain, ma main, j'ai pu partir dans le dos, la remonter jusqu'à l'omoplate. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce bulky médiastinal, là, qui était au milieu du thorax, qui bloquait. Ouais. Des trajets musculaires, nerveux, etc., etc. Donc, en fait, il y a une première phase où on regagne des choses. Et puis, il y a une phase qui est très longue, qui dure encore. On est 3 ans après. J'ai encore au niveau du haut du corps, au niveau des muscles du dos, à peu près au niveau des omoplates. Dès que je fais des efforts conséquents, j'ai d'énormes douleurs qui reviennent parce que c'est une zone où il y a eu le lymphome, il y a une zone qui a été beaucoup changée. Donc, il y a toute cette gestion à la fois mentale, psychologique de ton état et physique pour te réentraîner. Si j'ai pu réussir à repartir aussi vite, alors je sais pas si le terme aussi vite est parce que j'allais pas très vite justement, mais si j'ai réussi à faire au bout de 6 mois, donc les 78 kilomètres et je sais plus 3000 ou 4000 mètres de dénivelé là sur un trail, c'était une première victoire, c'est sûr. Je les ai pas courus très vite. Je crois que j'ai couru à 18 km/h, qui pour les connaisseurs, vous verrez que c'est pas très très vite. J'étais plutôt dans le dernier quart de la course, mais je le dois, je pense, à ce qu'on appelle mon vécu, c'est-à-dire tout l'entraînement que j'ai fourni à l'adolescence. J'ai souvent l'habitude de dire à mes élèves que dans la santé, c'est pas une pochette surprise comme on a tous envie de faire chin-chin à Noël en se souhaitant bonne santé. La santé, ça se construit. On a un facteur génétique, bien sûr, pour un certain pourcentage, on va dire autour de 60%. Et puis après, on a une phase à l'adolescence, entre 10 et 20 ans, où on construit sa santé. C'est-à-dire qu'on améliore des facteurs de santé importants. Et puis, il nous reste à peu près 20% qui vont être l'entraînement quotidien à 30, 40, 50 ou 60 ans, où là, on entretient, on développe un petit peu des facteurs de santé. Mais cette phase à l'adolescence est ultra importante. Moi, j'ai eu le courage, la chance, la force de faire les efforts surtout, d'avoir énormément d'entraînement à cet âge-là, et je pense avoir énormément développé ces facteurs de santé à cette époque-là. Ce que je dis n'est pas une vérité, c'est pas prouvé scientifiquement, mais je pense que c'est une chose qui m'a permis de bien réussir la chimio, d'avoir peu d'effets secondaires, et puis derrière surtout, de repartir. C'est-à-dire que c'est des bases fondamentales, c'est ce qu'on appelle la mémoire du corps. Vous prenez un judoka qui a été champion olympique à 20 ans, même s'il arrête pendant 30 ans le judo, à 60 ans, il prendra n'importe quelle personne qui n'a pas fait de judo jeune, mais qui s'est entraîné à partir de 40 ans, il la mettra au tapis en deux mouvements, parce qu'il y a une mémoire du corps sur des choses importantes. Donc, en termes d'entraînement, effectivement, je pense que c'est cette mémoire du corps qui m'a permis de ravoir un niveau correct pour terminer 6 mois après donc le 78 km des 100 miles sud de France, de terminer un an après un 110 km en Croatie, et puis un an et demi après d'arriver à la Diagonale des Fous.
Oui.
C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte que je suis reparti de zéro en termes d'entraînement et de niveau physique après ma chimio, et un an et demi après, je faisais donc l'ultra trail de la Diagonale des Fous, 170 km pour les connaisseurs et 10 000 mètres de dénivelé positif, une des courses les plus dures. Les ultra trails en 44h30. Donc c'était, j'ai envie de dire, une très grosse réussite qui est due à cette mémoire du corps, à ce que j'avais en moi. Alors bien sûr, j'ai remis en place un entraînement, mais pendant toute cette période-là, il fallait se battre au quotidien entre s'entraîner, mais pas trop s'entraîner, parce qu'il y en a encore des douleurs et que le corps ne peut pas accepter une charge. Il faut savoir que dans l'entraînement, on ne peut pas passer de « je fais zéro entraînement » à 15 entraînements par semaine. On va l'accepter une semaine, deux semaines, trois semaines, et puis au bout de trois semaines, on est blessé, on a des déficits en termes de nutrition, etc. Et tout. Donc, il y a vraiment une phase là, et c'était le grand combat et la difficulté pendant les 2 ans après, de gérer en fait cette remise au sport vers la performance. Je le dis, moi, mon défi, effectivement, que je m'étais lancé, c'était de recourir l'ultra trail du Mont Blanc, donc 2 ans après, sur chacun son Everest, en étant le plus performant. Donc j'avais cette idée de dire, de pousser mon corps dans ses extrêmes limites, pour dire, okay, je vais essayer d'être ultra performant. Pas simplement terminé, mais c'est un peu une expérience. Hein. Là, c'est mon côté sportif, coach. Je me suis dit, tiens, je vais mettre mon corps en expérience et voir comment je peux l'amener. Donc là, j'ai ressorti un peu tous les trucs du sport de haut niveau, hein, pour réussir à être le plus performant possible, le plus possible. Donc voilà, c'était une expérience nouvelle. Je suis arrivé au bout. Alors, l'UTMB n'a pas été couru au bout de 2 ans parce qu'il a été annulé. Enfin, il a été reporté en 2020. Et donc, il a été couru en 2021, donc on va dire 3 ans après. Et c'est vrai que 3 ans après, bah là, j'ai couru l'Ultra Trail du Mont Blanc en 35 heures et je fais 288e ou 80, voilà. Donc, je fais un top, on va dire un top 300 sur 2500 coureurs. Donc, oui, c'est une performance pour un cancéreux, on va dire. C'est pas une énorme performance en termes de sport. Tu m'as posé la question tout au début. Est-ce qu'on peut retrouver la vie d'avant? Eh ben, non. C'est-à-dire que, clairement, je pense que si j'avais pas eu ce cancer et que je m'étais entraîné ou que j'avais fait la même démarche d'entraînement sans ce cancer-là, j'aurais fait mieux à l'Ultra Trail du Mont Blanc que ces 35 heures et cette 288e place. Donc, il ne faut plus essayer de penser à qu'est-ce que j'aurais été si je n'avais pas eu ce cancer.
Ouais.
Il faut juste penser à qu'est-ce que je suis en train de construire, qu'est-ce que je suis devenu après ce cancer. Voilà. Faut plus essayer de se comparer, même si c'est difficile parce qu'on a toujours, ce petit truc dans la tête qui nous dit, ah, mais si t'avais pas eu ça, si t'aurais pu faire ça. Voilà, ça c'est humain, c'est tout sportif le vit, tout. On a toujours ce genre de choses-là. Mais faut essayer de pas trop vivre avec ces regrets-là parce que sinon on se pourrit la vie, quoi.
On va dire un mot sur l'association parce que tu as des actions avec eux, etc. Qu'est-ce qu'elle t'apporte finalement de courir pour cette association? Et comment tu vois le travail de cette association, son rôle en fait? Parce que enfin, faut le dire, hein, c'est une chouette association hein, sur le concept et toute l'histoire. Donc, je voudrais qu'on en dise un mot quand même pour bien préciser un petit peu ce qu'elle fait en fait.
Ouais, moi, alors, cette association, elle se charge de la troisième phase dont je venais juste de parler, c'est-à-dire la reconstruction après la maladie, qui est effectivement très difficile. En fonction des gens, il y a des gens qui, pour cette maladie, traînent ça pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans, ont du mal à se relancer professionnellement, socialement, et simplement individuellement dans leur corps. Donc refaire la paix avec son corps, retrouver l'équilibre qui va faire qu'on a un bien-être physique, qu'on a confiance dans son corps. Donc ça, c'est un point qui m'importe énormément. Et cette association travaille, donc faut le dire, sur ce plan-là, sur cette troisième phase, après terre, alors avec les enfants, et puis depuis quelques années, elle s'occupe aussi des femmes, uniquement des femmes, en rémission de cancer. Cette association intégralement un stage d'une semaine à Chamonix dans un chalet avec vue sur le Mont Blanc qui est magnifique. Et elle se charge avec des thérapeutes, des médecins, des éducateurs, avec Christine Janin, de travailler sur cet aspect-là, la reconstruction psychologique du corps. Parce que c'est en fait c'est le déclencheur. Après, les gens, une fois qu'ils ont repris conscience de leur corps, de la confiance qu'ils peuvent mettre en lui, ils auront, comme on dit, le pied à l'étrier et il leur suffira de poursuivre le chemin. Donc, je me suis, moi, je suis resté sur les enfants parce que les enfants me touchent particulièrement. Pour faire simple, je pense qu'ils subissent les effets négatifs de nos choix sociétals d'adultes. On sait très bien que le taux de cancer chez les enfants augmente d'année en année. Conséquence de notre train de vie, de la malnutrition, de nos choix de vie sociétal. Que les enfants ont tout à construire, qui sont l'avenir de notre pays. Donc les enfants me touchent particulièrement dans cette phase-là. J'ai toujours l'envie de les comparer comme des diamants bruts, des diamants en devenir. Et je donne toujours l'image aux enfants, on leur dit, à la base, vous êtes un vulgaire caillou qu'on ramasse. Quand on dit on ramasse un diamant dans une mine, c'est un vulgaire caillou tout sale. Et puis, à force de le polir, on va en faire ressortir les facettes, la brillance, la valeur, etc. Et donc, je dis toujours aux enfants, mais on peut le dire aussi aux adultes, hein, vous avez tous un diamant en vous. Ce diamant, il ne demande qu'à être poli. Donc, il faut savoir qu'il existe en soi. Il faut savoir trouver les moyens de commencer à le frotter, de commencer à le faire briller, et puis d'en faire un truc magique, en fait. Parce que mon point de vue, c'est de montrer que le corps est un instrument magique. Je pense qu'on est dans une société à l'heure actuelle qui a abandonné le corps pour se focaliser sur les capacités intellectuelles, sur d'autres valeurs, mais on a clairement abandonné le corps. Et je trouve ça assez terrible qu'on abandonne le corps puisque c'est un instrument magique. Pour étayer mon propos, je l'ai cité tout à l'heure, la construction du corps et de sa santé, on a 20% d'amélioration à l'adolescence. On sait clairement que nos enfants, à l'heure actuelle, ne bougent pas. D'enfants en club, le taux d'enfants qui fait des activités physiques a baissé drastiquement à cause des écrans, de tout ce système internet, jeux vidéo, etc. et tout. Il y a études maintenant qui le disent, hein, les enfants en 40 ans ont perdu 25% de leur capacité motrice. 25%. Moi, en tant que prof de PS, mes enfants, à l'heure actuelle, ne rentrent pas même d'il y a 10 ans. Voilà, faut quand même se rendre compte des choses. Faut quand même se rendre compte des choses. Je vais pas parler du contexte sanitaire actuel, mais en 2 ans, on a encore accéléré les choses. C'est-à-dire qu'on le constate tous, hein, là, tous les encadrants, on s'aperçoit qu'on a des enfants de 14, 15 ans qui ont un niveau moteur d'enfants de primaire. On a des stades dans l'évolution du corps, qu'on appelle, le corps vécu quand on est petit, où en fait le corps dans son mouvement et son activité nous permettent de vivre et de s'enrichir. On a une phase à l'adolescence où on est dans le corps perçu, on commence à prendre conscience de son corps, et c'est là qu'il y a les formes d'abandon du corps. Tout simplement, on commence à prendre compte que c'est notre propre corps, notre propre personnalité qui est en échec peut-être par rapport à d'autres. Avant 11 ans, on ne le perçoit pas ça. Le cognitif n'est pas assez développé pour se rendre compte que c'est nous qui sommes la cause de l'échec. Donc, à cette phase de l'adolescence, on le sait, il y a déjà une période où on abandonne le corps pour se réfugier dans d'autres choses plus virtuelles. On a tous des millions de champions du monde à la récré, mais on a peu d'enfants qui font du sport en club, pour étayer mon propos. Et puis, après, on a une société qui a une foi aveugle dans le médicament comme étant le moyen de maintenir la santé. Et bien sûr qu'il y a des préoccupations, il y a beaucoup de gens qui commencent à en parler de cette notion que la santé se construit et s'entretient. Le médecin ne fait que réparer. On ne peut pas partir dans la vie en se disant le médecin va tout résoudre. Non, le médecin et les médicaments ne vont pas tout résoudre. Et je pense que on finit par s'en rendre compte. Toutes les études à l'heure actuelle le disent, que ce soit l'obésité, les cancers, Alzheimer, l'activité physique, de maintenir la santé, de retarder la déchéance intellectuelle, etc., etc. Voilà, le mouvement nourrit le cerveau. Il faut s'en rendre compte. Le problème, c'est que c'est pas encore en application. Donc, je reviens à mon idée. Voilà, c'est un peu la raison pour laquelle moi je me suis engagé au niveau des enfants, parce que j'ai conscience de ça, que c'est mon travail au quotidien dans les collèges, de faire prendre conscience aux enfants qui sont les seuls acteurs de leur corps et que c'est un investissement pour la santé. Donc, cette association s'occupe en plus d'enfants qui ont, on va dire, eu la malchance, qui font partie du très faible pourcentage d'enfants en France, à avoir eu cette petite malchance de rencontrer un problème tôt dans leur vie. Vous voyez ? Donc ça, c'est vraiment le truc qui m'a touché dans cette association-là, cette notion de passer. Et puis après, les moyens, bah, on est exactement dans la même démarche. Voilà, à chacun son Everest. Il n'y a pas de défi plus grand les uns les autres. Il n'y a pas de défi ultime. À chacun le sien. Moi, mon défi ne peut pas être d'aller vraiment gravir l'Everest. Mon défi va être de faire le tour de l'Ultra Trail du Mont Blanc. Pour une autre personne, son défi, ça va être de faire une randonnée de 20 km en bord de mer, et ainsi de suite. Mais c'est ça que véhicule cette association et qu'elle réussit, je pense, magiquement avec les enfants. Pour avoir accompagné certains enfants à l'aller et au retour, on s'aperçoit que il y a des déclics. Il y a des déclics qui font que les parents le disent, les enfants reviennent changer, quoi. Changer. Voilà. J'ai beaucoup parlé pour expliquer l'association, mais c'est une association.
Non, mais c'est un magnifique message. Parce que, j'avais fait un épisode avec François Carré sur le podcast Sport et Nutrition, qui est médecin et qui justement alertait sur la perte de compétences physiques des enfants et sur le lien. Il expliquait que notamment les enfants, s'ils ont marché ou couru, ils apprennent mieux parce que le cerveau est plus oxygéné, que tout fonctionne mieux et que il y a une perte qui est hallucinante de compétences physiques qui est vraiment très importante. Donc je renvoie à tous ceux qui écoutent cet épisode sur cet épisode de Sport et Nutrition où on avait parlé justement de ce sujet-là parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est important et qui est en plus, alors là on parle en plus des enfants malades, donc c'est pour ça que je voulais cette association. Moi quand je l'ai découverte, j'ai envoyé un message tout de suite, j'ai dit j'ai envie qu'on en parle parce que j'ai lu les témoignages des parents en fait, des enfants, qui disent que leurs enfants, comme tu disais, sont totalement changés, qu'ils ont pris confiance, qu'ils ont retrouvé une vie peut-être qu'on pouvait pas imaginer qu'ils auraient, alors que parce que c'est un, quand on parle de cancer tout de suite on s'imagine le pire. Et toi, tout à l'heure, ouais, tu nous disais, moi, je me suis vu mourir. J'ai l'impression, moi, je me voyais, j'avais le sentiment que j'étais en train de mourir. Cette reconstruction, c'est un élément qui est vraiment tellement important que c'est pour ça que je voulais vraiment la mettre en avant. Et c'est bien que tu en parles et qu'on prenne le temps d'en parler.
Bon, bah oui, tu vois, je rebondis sur ce que tu viens de dire là. Toi, quand je parlais de, on a un problème sociétal de où il faut très corps. C'est que l'impact qu'on met dans la tête d'un enfant quand on lui annonce qu'il est malade. Et effectivement, là, ces enfants-là, à chaque SRS, ont un cancer, donc ils ont une vraie maladie. Mais je rebondis plus, je le vois au quotidien. Il y a 30, 40, 50 ans, quand nous-mêmes étions enfants, on avait des douleurs de croissance, on avait des petits soucis, mais on avait une vision plus positive des choses. C'est-à-dire qu'on dit, bah écoute, t'es en train de grandir, t'as mal, mais ça va passer, t'inquiète pas. Maintenant, les enfants, à partir de 8 ans, on leur met dans la tête qu'ils ont une maladie. Et je le vois au quotidien en EPS, c'est-à-dire qu'ils ont Osgood Jacob, ils ont la maladie de Safer, ils ont la maladie de Scheuermann, ils ont la phobie de ci, ils ont la phobie de ça. Et on leur met direct une étiquette pour des choses qui sont anodines, en fait, qui sont qu'un passage qui va durer 6 mois, 1 an dans leur vie. Ils ont 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14, 15 ans. Et plutôt que de leur dire, écoute, t'inquiète pas, c'est pas très grave, t'as un petit peu mal en ce moment, mais ça va passer, on fait attention, on va adapter en EPS le sport. Et ben, on leur dit, écoute, tu as une maladie. Et on le voit bien. Maintenant, chaque enfant qui est un peu différent a une maladie. Il a une maladie, il est hyperactif. Il a une maladie, il a la phobie de l'école. Il a une maladie, il a la phobie de ci. Il a la phobie, il a la maladie de... Et ça. Et on met le terme maladie sur des choses qui font partie de la vie, qui sont une évolution. Et c'est en ça, tout à l'heure, que je disais qu'on a une société qui est en train de nous éloigner de notre corps et qui est en train de faire une société médicamenteuse où, en fait, je ne vais pas aller sur le contexte actuel, mais on le voit bien. Voilà, on va être régi, réglementé par l'aspect médicamenteux, sanitaire des choses, plutôt que de se dire chacun doit avoir une responsabilité dans sa santé, dans la construction de sa santé. Et ensuite, on a la chance et l'extrême bonheur d'avoir en France l'idée d'avoir des sciences qui peuvent venir résoudre un problème ponctuel ou plus long chez certaines personnes. Mais on met les choses à l'envers, en fait. Et c'est ça qui est dommage.
Pour terminer cet épisode, et puis j'avais vu, tu as parlé de projets, tu as parlé des projets que tu pouvais, qu'il faut inventer. J'avais vu une citation de toi, tu disais qu'il faut réinventer sa vie et inventer de nouveaux projets. Tu vois comment, toi, tu as des projets là sur l'an prochain, sur des choses que tu as envie de faire?
Alors, des projets, oui, j'en ai plein. Des projets, ma vie est faite de projets, genre des projets pour des milliers de vies. Je serais prêt à faire danseur de cabaret si j'avais l'équivalent de 3. Alors, j'avoue que danseur de cabaret n'est pas mon premier projet, mais c'est un projet. Voilà. Mais oui, des projets, j'en ai plein. J'ai des rêves plein la tête. Et comme disait je sais plus qui, quand ton projet te fait pas peur, c'est qu'il n'est pas assez grand. Donc, j'ai énormément de projets. J'ai fini ce défi. J'avoue que le défi de terminer cet ultra trail du Mont Blanc, de prouver qu'on pouvait être performant, enfin d'avoir une notion de performance après la maladie, je l'ai terminé. Là, je suis dans une phase de réflexion pour me dire, OK, sur quoi je me relance? Est-ce que j'ai encore à apprendre en me disant bah, « Ok, bah, je peux toujours augmenter les doses d'entraînement, je peux toujours faire plus et voir est-ce que je peux encore être plus performant, sûrement. » Donc, j'ai cette réflexion-là pour l'instant. Ou est-ce que j'ai d'autres projets? Alors, j'ai un projet qui m'intéresse beaucoup, qui serait justement avec les enfants. de leur faire vivre ce que moi j'ai vécu quand je te parlais au tout début de l'entretien, de se dire ok, j'ai 15 ans et écoute, on se barre, on prend des vélos et puis on se lance le défi, on va à tel endroit, on fait tel endroit. Alors l'idée ce serait de réaliser ce projet et de dire à chacun ton défi et d'encadrer des enfants pour réaliser un défi avec eux et dans une action solidaire. Donc, si je synthétise rapidement, ce serait de créer des stages où les enfants disent « Ok, on va faire le tour de l'Ultra Trail du Mont-Blanc en 3, 4, 5 jours. » Et dans ce mode un petit peu vagabond. Si on a récupéré de l'argent, et ben on va passer à Chamonix et on va donner cet argent-là aux enfants. Je prends par exemple le stage coûte 300 euros. Si on a dépensé que 250 euros, ben on a mis 50 euros de côté pour les enfants. Donc on fait en fait un stage solidaire avec notre propre défi. Ouais. Donc de donner aussi peut-être aux enfants aux enfants bien portants cette envie de se lancer un défi. Un, pour la notion de ce qu'on disait, ce que tu évoquais tout à l'heure avec le docteur Carré, hein, qu'effectivement, il faut redonner du mouvement aux enfants, de l'activité aux enfants, l'envie d'avoir des rêves, parce que je pense qu'on leur donne plus d'envie d'avoir des rêves dans notre société actuelle. On peut. Leurs propres rêves. Ils consomment beaucoup les rêves des autres. C'est ce que je leur dis au quotidien. Vous passez beaucoup de temps à consommer les rêves des autres, mais peu à créer les vôtres. Quels sont vos propres rêves? Et beaucoup d'enfants, quand on leur demande ce qu'ils ont envie de faire, quel rêve, ils n'ont pas. Donc, il faut redonner cette envie-là. Et puis, avec un acte solidaire, ça, c'est un projet qui m'intéresserait. J'aime bien cette notion d'itinérance, en fait, de vivre au minimum. Alors, la difficulté étant de le mettre dans notre monde actuel, hein, régie de loi, de législation, de choses à... Mais c'est un projet que j'aimerais monter. Donc, il faut que je trouve la capacité pour encadrer ça. Enfin, moi, je peux l'encadrer en termes de personnes, mais en termes de logistique, de faire des stages sportifs solidaires.
Ouais.
Ça, c'est un défi et c'est un projet. J'ai un autre projet pour moi-même qui serait de rejoindre... pas mal de chaînes de montagne ensemble pour aller du Mont Blanc jusqu'à l'Everest.
Wow.
Oui, j'ai regardé sur une map monde, on peut rejoindre par les montagnes le Mont Blanc jusqu'à l'Everest. Malheureusement, il y a des pays qui sont difficiles à traverser. Mais c'est possible. En fait, il y a une chaîne de montagne continue qui rejoint. Donc ça, ce serait un grand projet. Je m'interdis pas des rêves qui font peur, mais je sais pas quand je pourrais le réaliser. On va voir.
C'est un sacré projet. Et alors, j'étais en train de faire dans ma tête, j'ai tilté, mais t'es parti quand même. L'aviron, c'est à plat, hein, c'est de l'eau. T'es breton ou d'origine? Enfin, t'es dans cette zone-là où.
J'ai l'habitude de répondre aux gens qui me posent ça, de dire que je suis citoyen du monde.
Ouais, mais c'est vrai parce que en fait, j'étais en train de citer, j'ai dit mais attends, il part de l'eau et puis il me parle que de montagne, de vouloir rejoindre les plus grandes montagnes. Mais je trouve que c'est un magnifique projet. Et j'ai une dernière question, mais pour le sourire quand même, c'est que j'avais vu dans un compte rendu, tu arrives à 4h25 l'UTMB et tu dis à ce moment-là les rues sont désertes. Tu te dis quoi au moment où tu passes là, ou parce que tu te dis en plus les ceux qui arriveront derrière, eux, ils auront du monde, peut-être plus d'acclamations. Des choses comme ça. Tu te dis quoi en fait à ce moment-là? Tu te dis.
C'est plus histoire de sourire parce que c'est vrai que on se dit que les premiers ils arrivent dans une heure de grande affluence, que on va dire je caricature un peu, mais les bons sportifs qui vont faire entre 100 et 400 ou 5 centièmes, ils vont arriver dans les heures creuses de la nuit entre 2h du matin. 6h du mat, là où il n'y a plus personne. Et puis, ceux qui vont arriver après, ils vont arriver dans la journée du dimanche, là où il y aura plein de monde, etc. Et tout. Ça fait ouais, je cours pas pour je cours plus pour les acclamations d'arrivée et le monde qui est autour. Je cours d'abord pour mon expérience personnelle, pour ce que je vais ressentir, ce que je vais vivre. Après, j'avais eu la chance là sur l'Ultra Trail du Mont Blanc d'avoir ma famille qui me suivait, donc c'est plus le plaisir de les avoir à l'arrivée et d'avoir fait le truc ensemble. Non, c'était juste une petite anecdote. Il y a pas vraiment. Je crois que, en fait, l'ultra trail te permet de redevenir très humble. C'est vraiment une chose que j'ai compris. Donc j'ai vécu quand même pendant 15 ans dans le sport de haut niveau en aviron où voilà, quasiment tous les ans, j'étais sur un podium national.
Ouais.
Donc les honneurs, entre guillemets, le fait d'être dans un milieu où il y a une estime et une reconnaissance du milieu te porte. Et bien sûr que c'est faut pas se leurrer, c'est quand même ce qui fait que tous les ans tu rempiles, tu continues, etc. et tout, parce que tu es reconnu dans un milieu, tu retires de l'estime de toi, ça te permet d'avoir un réseau social. Ce qui est sûr, c'est que 10 ans ou 15 ans après, dans le milieu de l'aviron, tu n'existes plus. C'est le côté néfaste du sport, c'est que tu existes tant que le sport de haut niveau, tu existes tant que tu es en haut. 10 ans après ou 15 ans après, on se souvient plus de toi. Il faut vraiment avoir été champion olympique pour qu'on se souvienne de toi et que c'était cette reconnaissance. Et puis le fait de repartir dans l'ultra trail, même si on est un bon sportif, qu'on a été quelqu'un avant dans un autre sport, en fait, on repart avec la diversité de l'ultra trail en termes de personnes est assez extraordinaire. Tu crois sur un ultra trail du Mont Blanc, un gars de 25 ans qui a décidé de se lancer ça comme défi, et puis tu croises quelqu'un de 65, 68, voire des fois 70 ans qui fait cet ultra trail. Tu croises quelqu'un qui sort d'un cancer, tu croises quelqu'un qui a été obèse 3 ans avant. Il y a une diversité de morphologie de personnes qui sont assez extraordinaires. Et donc c'est ça qui est beau en fait. Je pense pas que les gens qui font des ultra trails courent pour la foule qui les acclame à l'arrivée. Quoi. Enfin, peut-être je me trompe, hein, mais.
Bah en tout cas, Thierry, je te remercie beaucoup pour cette discussion qui était vraiment. Puis. J'avais vu des articles où tu parlais de ta philosophie, etc., de comment tu voyais les choses, mais vraiment c'est un magnifique témoignage. Alors on va le redire, l'association, je mettrai bien sûr les liens en description de l'épisode. Ton projet à toi, si quelqu'un voulait t'aider, toi qui t'entend, est-ce que t'as besoin d'aide maintenant, est-ce qu'on peut te contacter ou comment ça?
Alors moi oui bien sûr. Le dernier projet que j'ai évoqué, c'était de effectivement construire une structure qui me permette d'emmener des adolescents réaliser un projet sportif, que ce soit à vélo. Si alors que moi je l'ai fait, il y a même si c'était sur 2 jours, on était parti, on dormait, je crois qu'on dormait dans le fossé avec un duvet. Quoi.
Ouais.
Mais donc voilà, effectivement, l'idée c'est d'avoir une structure avec un van ou un camion aménagé qui permettent de dire, ben voilà, s'il y a 6 enfants qui disent on part à vélo de Rennes et on veut rejoindre, je sais pas, Cancale, bon, c'est peut-être un petit peu, allez, faisons un défi un petit peu plus lointain, Brest, et ben voilà, je vais avoir un véhicule, je vais avoir quelque chose qui va permettre de faire l'avitaillement, qui va permettre de faire les modes de regroupement, bien que l'idée va être d'être dans le plus simple possible. Le défi doit être tourné autour de son corps et de son expérience corporelle. Donc de limiter tout le confort qu'on peut avoir habituellement, mais on a besoin d'un minimum. J'ai besoin d'un minimum de choses pour créer ça. Donc effectivement, ça va passer par l'achat d'un véhicule. Et effectivement, donc je suis toujours à la recherche de financement pour ce projet-là. Et puis bah effectivement, bah les enfants, on est toujours à la recherche de financement pour aider les stages, puisque je le rappelle. Les stages pour les enfants sont entièrement pris en charge. En fait, un stage d'une semaine pour un enfant à Chamonix coûte 2 500 €.
D'accord.
Et donc voilà. Donc on est toujours en train de chercher des financements pour financer les stages. Donc pour ça, il y a le site de la Cordée Bretonne, c'est pour ceux qui sont de Bretagne. Mm. Et puis après, il y a aussi à chacun son Everest. Alors moi, j'ai un propre site qui s'appelle Cordée de Trail. Mm. Donc Cordée de Trail, on le trouve sur Internet. Et puis après, on peut me joindre. Il y a aussi un Facebook, le Facebook Cordée de Trail. Et puis, il y a, alors c'est vrai que comme je suis pas trop ordi, il y a mon mail, le mail que j'ai, que je lis souvent. Mais il y a aussi un mail sur Cordée de Trail. Il y a un mail Cordée de Trail point, je sais plus quoi, mais qui est trouvable sur le site Cordée de Trail.
Voilà. Je l'ai. De toute façon, je mettrai le lien vers le site, parce que j'ai le site sous les yeux, donc je mettrai le lien pour que, ceux qui ont été touchés par ce projet, parce que c'est un sacré projet et qui ont envie de t'aider, de participer, de soutenir, puissent le faire. En tout cas, Thierry, je te remercie
Merci.
beaucoup. Je mets bien sûr tous les liens, autant vers chacun son Everest, les cordées, ta cordée de trail aussi. Et puis, je suis sûr que ton témoignage a aussi touché beaucoup de gens, mais aussi donné une autre vision de ce qu'on a, de comment on vit nos projets aussi. Et je te remercie beaucoup.
Voilà. Et je terminerai en disant que l'impossible n'existe que parce que l'on n'essaye pas de le rendre possible. Donc, à chacun de vous d'essayer de trouver la façon de faire le premier pas pour essayer de rendre les choses possibles.
Et c'est une magnifique.
Merci à toi et merci à vous tous.
Continuez. C'est une magnifique conclusion. Et nous, on se retrouve. Merci encore. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Je vous dis pas qui sera la surprise. Et en tout cas, on va continuer comme ça notre belle exploration du mouvement, du sport et de ce que ça nous permet de faire. Merci Thierry.
Au revoir.
Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous le voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.
Small details or big surfaces. Tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with 5 different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.